Bon, moi je m'appelle Philippe Crapoulet, je suis gérant du bureau d'études Bioclim, on est basé à Lille, et j'ai travaillé avec l'équipe de Ma Architecture et Jérôme Mouillet dans le cadre d'un projet, puisque tout ça émane d'un concours en fait. Hein. Donc il m'avait choisi pour faire l'étude et le concept du logement, hein, de, comme on fait traditionnellement, jusqu'à cette conception un peu novatrice.
Donc la région privilégie ce qui entre dans son profil et dans son axe REF 3. Ça veut dire qu'elle vous a aidé en termes de financement ?
Non, on n'a pas eu d'aide. On a beaucoup dialogué avec eux. Alors pas d'aide financière, mais on a beaucoup dialogué avec eux, ce qui a provoqué des échanges où elle mettait le doigt sur des points qu'elle voulait qu'on approfondisse, etc. Donc le rapport, il a été sous cette obligation de dialogue avec eux qui nous a forcés à aller voir et à aller vérifier des choses qu'on n'a pas l'habitude d'aller... c'est monté intrusif pour pouvoir nous permettre d'être innovateurs.
Donc, si, on va dire, espaces d'habitation avec plusieurs maisons qui sont relativement autonomes par rapport à leur source d'énergie.
Alors, chaque maison ne voit aucune différence à si elle avait une installation genre cumulus et chaudière gaz, c'est exactement la même utilisation. C'est-à-dire qu'elle a un thermostat, elle consigne une température en plein hiver, et puis ces radiateurs vont puiser l'énergie nécessaire pour maintenir la température consignée. Elles puisent de l'eau, elles veulent remplir une baignoire, elles la remplissent à température. Alors, température bridée, par contre, aux alentours de 45, entre 45 et 47 degrés. Ce qui est la loi, d'ailleurs. Hein. Quand on mitige de l'eau et qu'on veut remplir, on ne dépasse pas les 45. Donc, aucune différence dans l'utilisation des logements pour les personnes. Et il y a des compteurs d'énergie qui émanent de cet échangeur à plaques, qui sont collectés et qui permettent, comme on le fera avec n'importe quel compteur, un compteur gaz, qui permettront aux maisons et cités de facturer l'énergie au puisage réel de chacun des habitants.
Donc, certaines personnes installent des pompes à chaleur dans leur jardin. C'est quoi la différence fondamentale avec votre système qui va puiser l'eau à 15 degrés, j'ai bien compris, à 150 mètres sous le sol ?
125 mètres. Alors nous, on puise de l'eau aux alentours plutôt de 14 degrés à 125 mètres de profondeur. L'avantage, c'est que derrière, on peut mettre et installer dessus une pompe à chaleur dite OO. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même façon qu'une pompe à chaleur qu'un particulier installerait chez lui et qui travaille sur de l'air. En fait, elle puise son énergie sur de l'air et puis derrière, elle fabrique sous forme d'eau qu'elle va distribuer de la même façon vers son logement. Elle travaille avec un échange sur de l'air. Et là, les rendements sont quand même considérablement moindres et beaucoup moins stables. Parce qu'effectivement, quand vous avez de l'air à 12 degrés au plein cœur, comme en ce moment, au plein cœur de la nuit, et que vous avez 32 degrés dans la journée au niveau de l'air, les courbes de fonctionnement de ces pompes-là, de ces pompes à chaleur, je veux dire, est complètement différent de celui où on a une pompe OO qui puise sur une eau constante, été comme hiver, à température égale. Et donc derrière, on peut organiser la gestion et la distribution et le stockage d'énergie complètement différemment qu'une pompe à chaleur RO.
Le fait qu'il y ait une nappe phréatique d'une certaine dimension et qui correspond à l'ensemble de cette habitation, enfin ces habitations réparties, ça facilite les choses. On peut dire que la résidence est quasiment calée sur cette nappe.
Alors oui, effectivement, c'est une opportunité qui nous a permis de tout de suite organiser, prévoir et concevoir à partir de cette nappe phréatique-là. Le principe qu'on a mis en place pourrait très bien fonctionner sur des lieux où il n'existera jamais de nappe phréatique, mais on pourrait très bien travailler avec ce qu'on appelle des pieux, une quantité de pieux, mais à ce moment-là, on les ramènerait au hameau et on rentrerait dans un nouveau système classique. Donc on pourrait remplacer la nappe phréatique par des pieux ou des capteurs horizontaux enfouis sous la terre. Mais la quantité qu'il faudrait pour pouvoir couvrir les mêmes besoins que ceux qu'on a là rendrait financièrement difficile de choisir cette option-là, quoi.
Donc ce sont sans doute des investissements considérables qui sont à prévoir dans une durée.
Tout à fait. Après, il y a une étude de retour. Là, on va diviser par 4, voire 4,2 les dépenses d'énergie qui sont faites au niveau de notre projet. Ça fait quand même une recette qui permet de chercher, ou en tout cas de réfléchir au point d'équilibre, point de vue investissement, retour sur investissement. Bon. La question pourrait se poser, et doit se poser d'ailleurs, si on a des petites cités. Au lieu d'avoir 170 logements, on aurait une cité de 40 ou 50 logements. On pourrait très bien imaginer 2 ou 3 sous-stations, ça dépend de la configuration et de la logique que la configuration et l'organisation de la cité montrent. Mais on pourrait très bien, à l'échelle d'une cité de 50 logements, réfléchir de la même façon et pourtant travailler sur des pieux d'énergie et non plus une nappe phréatique. Là, le point d'équilibre, il reste encore à chercher, mais probablement, on s'en approcherait.
Voilà, donc pour les habitants, hein, qui alors ils sont peut-être locataires ou propriétaires ?
Alors, locataires pour la plupart, sauf le hameau 2 où il y a une trentaine de logements où ils sont propriétaires. Mais autrement, tout le monde est locataire, oui. Ouais.
Alors quand on est propriétaire, la propriété, elle va jusqu'où par rapport justement à cet équipement d'alimentation en énergie ?
Et là, on tombe en plein dans le cœur du sujet, puisqu'en fait, on a entre la conception qu'on peut avoir, les bonnes idées qu'on peut avoir, comme par exemple l'installation d'un panneau photovoltaïque à un endroit pour pouvoir aller à l'autre bout au niveau de la sous-station, amortir directement les productions, ce n'est pas possible dans un cadre réglementaire, puisqu'il y a des textes de loi qui disent qu'une production doit s'arrêter à la limite de propriété avant d'être réinjectée, etc. Donc là, on est dans les limites. Donc là, de ce fait-là, pour répondre à votre question, tous les logements dont les personnes sont propriétaires ont été rendus indépendants et eux fonctionnent de façon classique, c'est-à-dire avec une chaudière individuelle mixte sur un réseau de gaz et ils n'ont pas de photovoltaïque, justement pour ça.
Voilà, donc au départ, c'est un projet qui prend du temps à être réalisé. Quelles sont les étapes et quelles sont éventuellement les difficultés que vous auriez rencontrées sur ce site ?
Le projet, on l'a commencé à le travailler au niveau de la phase esquisse en 2017. Puis en 2018, il a pris la forme d'un concours dans lequel on a inclus du REV 3. Donc il a fallu aller chercher de l'innovation. Donc l'innovation, elle est celle que j'ai présentée hein, sur la fédération et la mise en cascade d'un réseau de pompes à chaleur. Et puis ensuite, on est rentré dans le concret, c'est-à-dire qu'il a fallu dessiner, prévoir, imaginer comment les réseaux allaient basculer. Bon, somme toute, le montage d'un dossier classique. Ensuite, quand on a présenté ce dossier-là, il a fallu le présenter, le faire rentrer dans le cadre réglementaire et légal. Donc, par exemple, vis-à-vis d'Enedis, la façon dont on avait imaginé les choses, comme la réinjection avec une revente de surplus, donc de l'autoconsommation avec une revente de surplus, n'a pas été possible de par le fait que physiquement, les entités étaient complètement séparées. Et donc, d'un point de vue réglementaire, on ne pouvait pas se permettre de rapatrier, autrement dit, de balader à travers un logement des câbles sous tension pour aller alimenter un appareil à l'autre bout. Ça, c'était une des premières limites. Après, sur la distribution d'eau, les voies, la distribution d'eau et passage de réseaux dans les voiries publiques. Donc, il a fallu demander des concessions pour faire ces traversées. Puisqu'en fait, on est privatif d'un côté, mais la chaussée ne nous appartenait pas. Donc ça, par exemple, des points de détail comme ça, ça finit par contraindre. Au bout du bout, on n'a plus que le droit à deux passages au niveau des réseaux. Donc on a été obligé de revoir notre architecture. Donc en fait, c'est la véritable phase, et c'est une expérience qu'on a faite, de laquelle on tirera les conséquences. Mais cette expérience-là, elle est née du moment où, un peu naïvement, on a tracé les choses, et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément dans la légalité ou dans la législation française. Voilà la limite, la véritable.
Donc le principe d'une pompe à chaleur, c'est de transformer des différences de chaleur peut-être en énergie. Alors les gens qui ont de l'eau qui arrive chez eux, de l'eau chaude...
Tout est issu de la pompe à chaleur, tout est issu d'une veine d'eau qui est en fait une veine d'énergie qu'on distribue dans chacun des logements, sur lesquels ils viennent échanger... échanger donc avec un petit échangeur à plaques, comme dans une chaudière. D'un côté, on fait chauffer de l'eau, on fait surchauffer de l'eau d'un côté, et on a toujours un petit échangeur à l'intérieur sur lequel on cale les températures pour faire notre chauffage et notre eau chaude sanitaire. Ben là, c'est le même cas dans les logements, sauf qu'au lieu d'aller cramer du gaz derrière pour faire une eau surchauffée à l'entrée de chacun des logements, on distribue une veine d'eau chaude aux alentours de 55 degrés, de façon à pouvoir fabriquer de l'eau à 45-47 degrés dans les logements.
Et pour le courant, l'électricité normale, c'est un compteur normal.
C'est un compteur normal. Il n'y a pas de liaison entre les productions d'eau chaude, chauffage et sanitaire, et le compteur. Le compteur qui est dans le logement ne sert que pour l'éclairage et puis le tout venant, les prises de courant, la cuisine, ce genre de choses, quoi.
Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de prouesse technologique adaptée à un environnement particulier, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer bien davantage parce que d'autres régions ou d'autres villes ont les capacités d'accueillir ce type d'installation ?
Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste l'organisation des choses, comme par exemple un point de détail, quand on croise les veines de distribution d'eau chaude, on les rapproche l'une de l'autre pour que le peu de déperdition qu'il va y avoir d'un tuyau, plutôt que de partir dans le sol, elle parte dans le tuyau adjacent, par exemple. Donc en fait, c'est tout un ensemble de réflexion et de personnalisation de ce principe général, somme toute, complètement connu. Il n'y a rien de particulier. La seule innovation, c'est la réflexion qu'on peut se faire à l'échelle d'un hameau, à l'échelle d'une résidence. C'est tout. C'est la seule innovation.
Donc Maison et Cité, c'est un organisme connu, je veux dire, un parc important immobilier, et qui a aussi la gestion de ce parc, qui loue, etc. J'imagine que c'est important pour eux que cette... on va dire expérimentation peut-être pour l'instant, puisse se développer ailleurs.
Oui, alors tout à fait, d'autant qu'en fait, ils ont la particularité de gérer des cités, donc on se retrouve assez souvent dans les mêmes configurations. Donc on peut reporter les mêmes choses. Je tiens quand même à souligner que Maison et Cité a remarquablement suivi le projet et a toujours, d'un bout à l'autre, été moteur sur cette recherche d'innovation. Et donc, oui, alors, mais pas seulement. Il peut très bien y avoir, je pense à des îlots, par exemple, sur la ville de Lille ou ailleurs, des organisations un petit peu comme ça qui pourraient se poser la même question. Alors, on ne va pas dire qu'on fait une expérimentation parce qu'on ne fait pas prendre de risques et toutes les choses ont été calculées. Et comme je vous le disais, tous les systèmes sont sécurisés à trois niveaux. Donc, il n'y aura jamais personne qui va manquer ou jamais de hameaux ou de trentaines de logements qui vont être en pénurie de chaleur. Maison et Cité est assez dans le contexte qui permet de reproduire ce principe-là, de par le fait qu'en fait, elle gère des cités qui ont à peu près la même configuration, où les mêmes questions peuvent se poser. Et encore, je le dis, si on ne dispose pas de nappe phréatique, à condition de faire quelque chose à l'échelle, mais le point de bascule et la limite est à calculer, et à réactualiser d'ailleurs, à l'échelle de 40 ou 50 maisons, les mêmes principes peuvent s'exposer et se faire sur des pieux d'énergie plutôt que sur une nappe phréatique.
La géothermie, est-ce qu'elle est, en termes d'exploitation, plus facile quand l'eau est plus chaude au départ dans la nappe? Enfin, il y a des endroits peut-être où il y a des sources chaudes qui pourraient être exploitées, qui pourraient être plus intéressantes qu'à Lens.
Oui, c'est sûr, on serait au Groenland ou en Islande, là-bas, ils ne dépensent aucun centime pour se chauffer, puisque toute la phréatique, elle est chaude. Non, chez nous, on est quand même soumis, quand on puise sur une nappe phréatique, à une déclaration auprès du BRGM qui a la mission de surveiller l'épuisage, les rejets et la non-surchauffe des nappes phréatiques. Donc de toute façon, on aurait une nappe phréatique un peu plus chaude, elle le serait réchauffée ou par la nature ou par un rejet industriel, mais là on serait plus dans autre chose que la surveillance du rejet final qu'on peut faire de ces exploitations-là. Et là, on doit montrer patte blanche au niveau du BRGM. Mais oui, effectivement, pour répondre à votre question, plus la température sur laquelle on puise est élevée, plus le rendement des pompes à chaleur sera meilleur. On aurait de l'eau à 18 degrés, on aurait un rendement de pompes à chaleur aux alentours de 6 ou de 7. Là, on a un rendement aux alentours de 4,5.
Et donc, le musée du Louvre-Lens a une fonction particulière dans cet écosystème.
Oui, mais malgré eux, puisqu'en fait, ils se sont installés bien avant notre projet. C'est juste une opportunité qu'on a saisie. Mais quand bien même ils n'auraient pas fait ce rejet-là, le même système, alors peut-être pas avec les mêmes chiffres, mais le même système aurait été opportun, hein, quand même. Ouais.